À rencontre spirituelle en ce 31 décembre, j'ai pensé vous parler de quelqu'un dont on parlait encore dans ma jeunesse. Les éditions Fides à Montréal avaient publié d'ailleurs un très beau texte de Louis Grenade, un dominicain, sur l'amour. C'est un auteur spirituel qui a fait sa marque de façon extraordinaire au 16e siècle, en l'époque de la réforme protestante, l'époque de l'apparition des Jésuites, à l'époque de Sainte-Thérèse d'Avila, de Saint-Jean de la Croix. C'était d'ailleurs un grand ami de Saint-Jean d'Avila. Très grand auteur spirituel espagnol, qui a surtout laissé des livres sur la raison, la méditation et des choses comme ça, mais une œuvre immense. Il est mort en 1588, un 31 décembre. C'est le père, donc, Louis de Grenade, dominicain. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ses nombreux livres à Louis de Grenade ont rendu pendant, je dirais bien, 400 ans, son nom célèbre dans toute l'Église, et particulièrement évidemment en Espagne et au Portugal, mais aussi en Italie, en France, en Allemagne. Et d'autre part, la sainteté de sa vie, on peut dire qu'elle est encore plus digne d'admiration que toute la science qu'il avait et le talent vraiment merveilleux qu'il a mis à écrire ses livres et qui caractérise d'ailleurs ses œuvres. Un talent qui était tout à fait selon la ligne de l'époque. C'est peut-être pour ça qu'il est moins lu aujourd'hui, parce que ça a commencé à dater depuis, je dirais, une cinquantaine d'années. Ce dominicain, absolument illustre, vous verrez tout à l'heure, est né donc à Grenade, c'est pour ça qu'il porte le nom de Louis de Grenade, en Espagne, en Andalousie. Il est né en 1504. Je vous ai dit qu'il est mort en 1588, donc il est mort à 84 ans, très âgé pour l'époque. Ses parents étaient pauvres, de vieilles traditions chrétiennes. Aucune association avec d'autres peuples, alors que beaucoup d'Espagnols avaient marié ou des Juifs ou des morts. Et Louis de Grenade n'avait que 5 ans quand son père est mort. Sa mère a été réduite à se faire mendiante. Oui, elle vivait d'aumône. Elle habitait avec Louis dans le voisinage du couvent des Pères dominicains de Sainte-Croix. Puis elle a demandé aux dominicains, elle a obtenu d'ailleurs, de blanchir les tuniques des religieux, parce que les dominicains, je le rappelle à ceux qui l'ignoreraient, ont porté jusqu'à tout récemment de grandes tuniques blanches qui, évidemment, pouvaient se salir assez rapidement. Ses bons pères ont pris sous leur protection cette pauvre veuve et son enfant. Ils ont pourvu tant bien que mal à leurs besoins, et Dieu semble bien avoir voulu que Louis de Grenade soit ainsi attaché dès son jeune âge à l'ordre même, qu'il devait aider à rendre très illustre plus tard. Un de ses biographes, d'ailleurs, raconte que bien que Louis ait été très doux de caractère, qu'il a eu un tempérament calme, eh bien, ça lui arrive chez les meilleurs jeunes pacifiques, comme on peut dire, d'entrer dans une bataille, une dispute avec plusieurs de ses camarades. C'était dans les fossés de la citadelle, c'est-à-dire tout près d'un fort, c'est comme la citadelle de Québec. Et puis, ils se sont mis à s'engueuler, puis à un moment donné, la colère s'est emparée de ces jeunes. Et on a assisté à une scène de boxe ou de pugilat, si vous préférez. Vraiment, une scène sérieuse. Et tout ça s'est engagé sous les yeux même d'un comte qui était gouverneur de la forteresse, le comte de Tendilla. Et ce comte, justement, se promenait là sur le rempart. Il s'empresse d'envoyer quelques hommes de la garnison là, pour séparer les jeunes combattants qui n'y vont pas de main morte. Or, Louis, qui n'a pas été, lui, l'agresseur, demande aux soldats de le conduire tout de suite auprès du comte. Il a de l'audace, même si sa mère est une simple mendiante. Et là, il lui explique la cause de la bataille. Il se justifie avec tant d'esprit puis de dignité que le gouverneur le prend à l'instant même en grande affection, puis il s'informe de d'où il vient, quelle est sa famille. Et là, il se rend compte dans quelle indigence sa mère est plongée. Et ça le décide, à partir de ce jour-là, de garder chez lui Louis, Louis de Grenade, et d'en faire, en fait, le compagnon d'études de ses propres enfants. Ça s'est fait si vite que le lendemain, Louis de Grenade accompagnait les fils du comte au collège. Les gens étaient un peu surpris. Mais tout d'abord, au collège, il donne la preuve de disposition absolument extraordinaire. C'est un enfant génial. Sa mémoire est tellement prodigieuse qu'après avoir assisté pendant le carême avec toute la famille du gouverneur au sermon d'un dominicain de Sainte-Croix qui prêchait de façon très éloquente, il a su l'imiter chaque soir en répétant, au retour à la citadelle, le sermon qu'il venait d'entendre. Louis ne mettait aucun passage. Il reproduit jusqu'au ton du prédicateur. C'est un bon imitateur. Il imite ses gestes. Il accentue ses effets oratoires avec une fidélité si parfaite que le comte invite plusieurs personnes de sa connaissance à venir l'entendre. On n'en revient pas. On reste comme en extase et chacun s'accorde à dire qu'un enfant si doué et dans l'imitation et dans la compréhension des problèmes spirituels, et qui se distingue d'ailleurs par une piété tout à fait exemplaire, il a une excellente conduite, eh bien on s'entend pour dire qu'il deviendra peut-être une des gloires de l'Église, qui sait, hein? Car Louis manifeste, dès cette époque, une vocation vraiment décidée, là. Il est décidé pour l'état religieux. Il est encore jeune. Hein? Et le comte de Tendilla, qui lui sert au fond de père, de tuteur, si vous préférez, pourvoit généreusement l'entretien du jeune Louis. Il lui fait achever ses études. Il paie tous ses professeurs. Et alors, à l'âge de 17 ans, Louis de Grenade entre comme novice au couvent des Pères dominicains. Les supérieurs le connaissent depuis fort longtemps. On sait qu'il a les qualités nécessaires à devenir un bon religieux. Il a une rare intelligence, il est humble aussi, il est simple. On dirait autrefois modeste, on n'utilise plus ce mot-là. Hein. Et il apporte toute l'exactitude possible à l'accomplissement de ses devoirs. C'est tellement parfait qu'on reste un peu pantois, on se dit c'est exagéré, mais les témoins sont là pour dire que c'est vraiment ça. Il suit d'ailleurs avec une grande docilité les conseils qu'il reçoit de son maître des novices. Il n'y a pas un instant de défaillance. Il observe même chaque point de la règle avec une fidélité scrupuleuse. J'ai vu ça quand j'étais au noviciat Saint-Benoît-du-Lac, ça existait ça. Un novice qui était un modèle pour tous les autres. Et il est donc le modèle du noviciat. Et pendant 68 ans qu'il a vécu dans l'ordre de Saint-Dominique, les dominicains, il a conservé la ferveur de ses premières années, de ses jours au cloître. Le même attachement à la discipline monastique, comme on dit. J'ai dit cloître pour des dominicains. Oui, dans ce temps-là, c'était comme ça. Ils étaient de tempérament cloîtrés. Ils ne sortaient en fait que pour prêcher. Ou rarement, ils sortaient très rarement de leur cloître. C'était des moines, au fond. Nous sommes au 16e siècle, je vous le rappelle. Louis de Grenade avait donné tellement de preuves de la solidité de sa conduite, ses supérieurs ne pouvaient pas retarder sa profession. Alors ce jeune novice s'est admis à prononcer ses vœux, c'est-à-dire à s'engager comme religieux en promettant l'obéissance, la chasteté et la pauvreté. Et il s'acquitte de cet acte de sa vie avec une joie, avec un zèle vraiment enthousiaste, une ferveur de piété qui édifie profondément toute l'assistance. On se rend compte qu'il est sérieux. Alors on le reçoit aussitôt en classe de philosophie. Ses progrès sont rapides, sont soutenus. En 6 mois, il dépasse tous ses condisciples. Il est même proclamé l'élève le plus instruit de sa province dominicaine, parmi tous les jeunes dominicains. Une école de théologie, qui était très florissante, s'était ouverte à Valladolid. Alors on décide d'y envoyer le jeune religieux, et cette détermination l'afflige beaucoup. Il songe à sa pauvre mère, qui va rester à Grenade, dans un état voisin de la détresse. Et pendant toute la durée de son noviciat et de son cours de philosophie, jamais, jamais il n'avait manqué de diviser en deux portions, avec la permission de ses supérieurs, la nourriture qu'on lui servait au réfectoire. Et l'une de ces portions était, dit-on, pour sa mère. Ce qu'il conservait pour lui-même ne suffisait certainement pas à satisfaire l'appétit d'un jeune homme de son âge. Il avait quoi, 18-19 ans? Mais peu lui importait de souffrir de la faim, quand il trouvait une occasion de se mortifier, puis de pratiquer deux vertus à la fois, la piété filiale, hein, puis l'abstinence. Et au moment de quitter le couvent de Sainte-Croix, il tremble de laisser sa pauvre mère exposée à la misère. Mais heureusement, il apprend tout à coup que le comte de Tendilla se charge de veiller sur elle. Ses craintes sont ainsi pleinement disparues à l'heure du départ. Là, la tendresse de Louis de Grenade pour sa mère ne s'est jamais démentie tant qu'il a vécu. Hein. Il lui rendait souvent visite. Son état d'indigence n'éveillait pas en lui la moindre gêne. Ça ne le gênait pas. Voici un exemple, c'est assez curieux. Un jour qu'il prêchait devant toute la noblesse de Grenade, à laquelle il était venu se joindre une affluence de riches bourgeois, il aperçut, avant de commencer son sermon, sa mère qui venait pour l'entendre. Et on la repoussait au fond de l'église à cause de la pauvreté de ses vêtements puis son air misérable. Alors, Louis de Grenade s'écrie dans l'église, « Je vous en prie. » Puis il la désigne à l'assistance, son doigt, « Laissez passer cette pauvre femme, c'est ma mère. » Alors on se range tout aussitôt, et l'on a aperçu les plus grandes dames se disputer l'honneur de placer cette humble veuve auprès d'elle. En lui témoignant toutes sortes d'égards, en l'estimant heureuse d'avoir un pareil fils. Ça ressemble probablement à certaines personnes au temps de Jésus, qui ont su apprécier Marie malgré sa pauvreté, quand ils ont su qu'elle était la mère de Jésus. Donc, à Valladolid, notre père Louis de Grenade, dominicain, continue de faire ses études de théologie, et il a énormément de pénétration. Rien ne lui fait obstacle. Il surmonte de prime abord les difficultés les plus sérieuses. Il apporte toujours des solutions, avec un tact surprenant, avec une netteté remarquable. Il n'a aucun orgueil chez lui. Il sait que les dons qu'il a reçus de Dieu viennent de Dieu. Il n'y est pour rien. Dieu donne comme il veut. Louis de Grenade s'attache de préférence à la théologie mystique, d'ailleurs. Il néglige pas les autres parties du cours. Dieu, qui le destine à être plus tard docteur en théologie mystique, justement, lui donne non seulement un grand désir de s'y appliquer, mais encore de grandes lumières pour en pénétrer les secrets et les profondeurs. Il est toujours prudent et modéré dans sa conduite. Il sait faire de son temps un partage égal entre l'étude et l'oraison. Égal, j'ai bien dit. Car il pratique 3 heures d'oraison par jour. Il veille sans cesse aux impressions que reçoit son âme ici et là. Et comme il est jeune, il doit comprimer assez durement la révolte de ses sens. Et après avoir terminé ses études de théologie, le père Louis de Grenade revient donc dans sa ville, à Grenade, au monastère de Sainte-Croix. Ce monastère a été fondé quelques années plus tôt, parce que ça ne faisait à peine qu'une quinzaine d'années peut-être que Grenade avait été libérée des musulmans qui l'occupaient depuis déjà un bon bout de temps, depuis des siècles en Espagne. Alors il est ordonné prêtre. Il se sent appelé d'une manière irrésistible à la prédication, alors il demande donc à Dieu cette grâce de pouvoir se consacrer au salut des âmes. Puis il obtient l'assentiment de ses supérieurs pour prêcher. En peu de temps, il se met à tirer toute la ville de Grenade dans l'église où il prêche. Les conversions qu'il opère sont innombrables. Il se révèle au peuple de Grenade comme un saint, comme un apôtre. Il n'enseigne rien de ce qu'il ne pratique lui-même. Je répète, il n'enseigne rien de ce qu'il ne pratique lui-même. Il est tout à la fois riche de science, d'accord, mais surtout de bons exemples. Et les écrivains de son temps ont comparé Louis de Grenade au ver à soie. Au ver à soie, qu'est-ce que ça veut dire? Un ver à soie, après s'être alimenté, dit-on, de nourriture, mange des feuilles, le ver à soie parvient à une grosseur assez considérable, puis tire de sa propre substance des biens dont nous pouvons profiter, les fils de soie. Alors, c'est de là que vient la comparaison. On dit que de même, Louis de Grenade, après s'être nourri par la lecture, après avoir absorbé, pour ainsi dire, les œuvres des pères de l'Église, tirait, comme de lui-même, une science surprenante. Il la répandait avec abondance dans l'âme de ses auditeurs. Et il les comblait des richesses spirituelles qu'il avait puisées dans les pères de l'Église, mais surtout dans la Bible, dans la Sainte Écriture. Il avait toutes les qualités d'un grand prédicateur. Il avait une voix claire, métallique, un accent net, ferme, intelligible, et une façon de s'exprimer, une force et un talent particuliers pour se mettre du premier coup au niveau de son auditoire. Et pendant près de 40 années, il a rempli les églises d'Espagne et du Portugal de son éloquence évangélique. Il prêchait dans les plus humbles chapelles comme dans les cathédrales les plus splendides. Et il ne descendait de chair. Mais dans ce temps-là, les prêtres, les prédicateurs montaient, dit-on, en chair, un escalier qui montait dans un petit espace juché en haut pour être bien entendu tout le monde. Il n'y avait pas de micro, de haut-parleur dans ce temps-là. J'ai connu ça dans ma jeunesse. Les prêtres montaient en chair. J'ai dit ça pour les plus jeunes qui se demandent ce que c'est que ça veut dire, une chaire avec un E à la fin. Alors, il prêchait dans les plus humbles chapelles, dans les cathédrales. Descendait de la chair que pour entrer au confessionnal et y absoudre les pécheurs qui étaient touchés par sa parole, qui étaient amenés à lui par la grâce et qui tombaient à ses genoux, dit-on, en pleurant de repentir. Vous direz, c'est exagéré, mais il faut dire qu'on est en Espagne. Tout ça se passe il y a, disons, 450 ans. C'est une autre époque. Les coutumes sont différentes. Et les nombreux témoins ont confirmé ce que je viens de vous dire. Les gens pleuraient, ils s'agenouillaient et demandaient pardon. Après ces 4 premières années de prédication, le père Louis de Grenade est rappelé par ses supérieurs. On trouve qu'il a besoin de repos. Alors on l'envoie dans la province de Cordoue pour établir le couvent de Scalacelli, qui tombe en ruine, physiquement puis moralement aussi. Je ne m'étendrai pas sur la décadence du couvent. Et c'est au milieu de... C'est un couvent dominicain. C'est au milieu de ces travaux, donc, de réforme, que le père Louis de Grenade a écrit ses premiers livres. Dès le début, et bien avant que le monastère soit relevé de son délabrement, Scalacelli, comme il s'appelait ce couvent, est devenu pour ce dominicain, ce fils de Saint-Dominique, une demeure agréable, une retraite passablement paisible, où il s'enfermait avec joie pour se préoccuper de ce qu'il avait à faire. Les incommodités ne le dérangeaient pas. Et ce moine authentique avait trouvé la véritable échelle qui conduit à Dieu, selon l'expression de l'époque, toujours en rapport avec la fameuse échelle sainte de Saint Jean Climac, un des plus vieux ouvrages de la spiritualité catholique ou chrétienne, qu'il a traduit d'ailleurs. Et un jour, je vous parlerai de Saint Jean Climac. Il a su profiter, Louis de Grenade, du recueillement puis de l'appel qu'il a trouvé dans ce couvent pour composer des traités sur la raison et la méditation dont je vous ai parlé au début. Il a aussi écrit des traités sur le jeûne, qui est revenu à la mode, et sur l'aumône. On vient de passer une période d'aumône au mois de décembre. Lui, il explique très sérieusement ce que ça veut dire que l'aumône. C'est superbe ce qu'il écrit à ce sujet. Et on a goûté tellement ses ouvrages. Ils étaient si répandus. Tout d'abord, que même les musulmans, car il y avait pas mal de musulmans en Espagne, même les musulmans ont choisi des extraits pour les traduire en arabe. À Cordoue, un mort, esclave du nom de Amélési, est touché de la grâce à cette lecture. Il a demandé le baptême. Il s'est fait chrétien. Le travail assidu qu'exigeait la composition de ses œuvres n'empêchait pas le père Louis de Grenade de répondre au désir des habitants de Cordoue, qui venait le supplier presque chaque semaine de leur annoncer la bonne nouvelle. Et alors Louis de Grenade descendait de sa colline et la foule remplissait aussitôt l'église où il devait se faire entendre. Un vendredi saint, il prend un missel. Allez voir comment il peut prêcher. Alors il ouvre solennellement, en chair, le missel. Il se borne à lire les premiers mots, en latin. Passio Domini Nostri Jesu Christi. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et devant tout le monde, il ferme le livre. Les gens sont surpris. Il pose la question, est-ce que chacun de nous ne doit pas avoir la passion de Jésus-Christ, gravée au fond de son cœur? À quoi nous servirait un livre, puisque nous pouvons tous, moi le premier, en reproduire de mémoire les détails douloureux? Écoutez donc, ô mes frères, et déplorons ensemble l'infamie du péché de l'homme qui a cloué le Sauveur du monde à la croix. Et là-dessus, il se met à paraphraser les épisodes du drame de la Passion, depuis le jardin des Oliviers jusqu'au calvaire. Son discours est tellement pénétrant que, on l'assure, on entend dans cette foule. Je vous rappelle, c'est une foule du XVIe siècle, on entend des sanglots, des gémissements, des cris de repentir dans l'auditoire. Alors impossible au père Louis de Grenade d'achever ce qu'il a à dire. Cette crise de douleur est communicative, ça va toujours croissant, alors il est obligé de descendre. Il remercie Dieu qui vient de permettre à sa parole, tout simplement, d'émouvoir aussi profondément les âmes. Alors on retire le célèbre prédicateur du couvent de Scalacilli pour l'envoyer fonder une autre maison de son ordre dans une ville d'Andalousie, à Badajoz, où la corruption des mœurs était extrême. Ça ressemble un peu à nos villes d'aujourd'hui. Et depuis longtemps, le peu de chrétiens fidèles de cette ville demandait et appelait à grands cris les religieux de l'ordre de Saint-Dominique, les dominicains. On savait les résultats obtenus par leurs prédications ici et là, et on réclamait leur aide, qui était plus nécessaire là que partout ailleurs. Il n'y avait que, disait-il, qui pouvait délivrer cette ville de l'absurdité et de cette espèce de néant. Et à peine Louis de Grenade est-il installé à Badajoz, il commence des conférences régulières et l'église est presque vide à son premier sermon, mais on accourt pour entendre les autres sermons. Et là, des conversions nombreuses changent le climat de la ville. C'est de Badajoz que le père Louis de Grenade compose la guide des pécheurs. Ça s'appelle comme ça, le mot guide est employé par l'auteur dans le sens de frein, de reine, si vous voulez. Donc, la guide des pécheurs, c'est un livre énergique et saisissant, auquel un nombre incalculable de chrétiens à travers les siècles ont dû leur retour à Dieu. C'est ainsi que le père Louis de Grenade devient, de plus en plus, un prédicateur recherché partout. Pour revenir à Louis de Grenade, qui a vécu au XVIe siècle, on retire donc ce prédicateur du couvent de Scalacilli, là, et puis on l'a envoyé à Badajoz, où il convertit énormément de gens. Et sa renommée s'étend alors d'un bout de l'Espagne à l'autre, et dans tout le Portugal. Ses supérieurs sont assiégés de requêtes et de supplications, et partout on demande le prédicateur, partout on veut l'entendre. Il possédait finalement l'influence puissante de quelqu'un de très, très important. C'est le frère du roi du Portugal. Il était d'ailleurs l'infant du Portugal, Don Henri, qui est cardinal, qui est prêtre, et qui l'emporte sur tous les autres. Il faut dire de ce cardinal du bien, car il a voulu, dès sa jeunesse, chose curieuse, lui, le frère du roi, se faire prêtre. Il est devenu archevêque d'Éborah et cardinal, mais il donnait, dit-on, l'exemple des vertus les plus strictes, les plus sévères, et il était très bon. Chaque jour, d'ailleurs, ce cardinal, ce prélat, célébrait le sacrifice de la messe, ce qui était plutôt rare chez des cardinaux de cette espèce. Et puis, à cette époque un peu décadente, c'est l'époque de la réforme protestante, il distribuait à son peuple l'Eucharistie lui-même pour mieux connaître les gens qui lui étaient confiés. Il visitait les malades, il leur portait la communion, il entendait les confessions, vraiment lui-même, il baptisait les enfants aussi, il versait beaucoup d'aumônes, aux pauvres. Il témoignait, quoi, en un mot, dans tous les actes de sa vie. Sachant que le père Louis de Grenade venait d'arriver à Ébora, où il était cardinal, donc Don Henri veut se rendre au couvent où il était descendu. Imaginez ça, la scène. Il va droit à la cellule du père Louis de Grenade. Une cellule, oui, c'est dans les couvents. Vous savez, quand on va, si vous voulez en voir des cellules de moines, quand vous allez à Florence, là, pour les privilégiés, comme j'ai fait l'été dernier, voir le couvent Saint-Marc, qui est devenu un musée parce qu'il a été décoré par Frangélico, et on voit ce que c'est qu'une cellule. C'est pas grand. Hein? Alors, il va droit à la cellule, puis ce cardinal s'agenouille devant cet humble moine. Il le prie de vouloir bien entendre sa confession. Pendant ces jours de Louis de Grenade au Portugal, le royaume entier a pu ressentir l'influence de ses écrits, de ses prédications, puis aussi les vertus dont il était modèle. Hein? Et les nouveaux religieux, avec lesquels il demeurait au couvent d'Ébora, ont été les premiers à reconnaître son mérite, ses qualités. Le temps réglé pour de nouvelles élections monastiques, là, dans le couvent, arrivait, et tous les suffrages se sont réunis sur Louis de Grenade, il est nommé provincial. Alors il s'acquitte de ses fonctions de provincial avec une grande douceur. Une prudence consommée aussi, c'est ce que ça demande. On est étonné de voir comment il trouve moyen de suffire à tout, sans négliger ses mortifications ordinaires, ses travaux d'intellectuel et de grand spirituel. Par exemple, lorsqu'il se met en route pour aller visiter les maisons placées sous sa surveillance, il monte une mule pacifique et calme. Vous direz, qu'est-ce que ça change? Mais écoutez bien ça. Il prend soin de faire ajuster à l'arçon de la selle une espèce de pupitre où il pose ses livres et qui, ça lui donne même la facilité d'écrire. Alors le père Louis de Grenade, assis sur sa mule comme ça, parvient à utiliser jusqu'à la dernière minute de son temps pendant le trajet d'un monastère à l'autre. Il faut le faire. Et c'est dans ses excursions qu'il traduit du latin en langue espagnole l'échelle spirituelle de Saint-Jean de Climac, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il dédie l'œuvre à la reine Catherine du Portugal, veuve de Jean III, roi du Portugal, et qui était frère, comme je vous ai dit, du cardinal Henri. Cette reine avait conçu pour le père Louis une estime très grande. Elle manquait jamais de prendre conseil auprès de lui. Lorsqu'elle était régente du royaume, là, elle avait besoin de prendre une décision importante. Alors, elle trouve qu'un homme de cette qualité puis de ce mérite, comme Louis de Grenade, n'était pas à sa place. Elle lui offre le siège archiépiscopal de Brague, qui est vacant. Mais Louis de Grenade décline l'honneur que la reine régente veut lui faire. Il la supplie de jeter les yeux sur quelqu'un d'autre. Elle n'est pas très contente. Alors, la reine Catherine lui dit, sur un ton un peu sec, « Père Louis, je vous charge de l'archevêché de Brague. Acceptez-le pour vous-même. Ou bien trouvez un homme capable de l'occuper dignement. Et quant à moi, je délivre de ce soin ma conscience et j'engage la vôtre sans réserve. Et dans trois jours, il me faut votre réponse. Ne l'oubliez pas, mon père. » Elle le congédie par un geste et par un regard. Elle est sévère, hein? Et c'est pas dans son habitude. Mais durant ces 3 jours terribles, le père Louis de Grenade passe son temps à prier. Il dort peu, il mange à peine, il est mal pris. Hein? Alors là, il demande à Dieu de manifester sa volonté, puis de lui révéler qui il devrait suggérer. Et ses vœux sont exaucés. À la fin du 3e jour, il retourne chez la reine et lui dit « J'aime à croire que toutes vos réflexions sont faites, mon père. » C'est-à-dire, elle lui dit ça, « J'aime à croire que toutes vos réflexions sont faites, mon père, et que vous acceptez. » Alors il lui répond « Madame, permettez-moi de répéter à votre majesté que je me sens indigne de remplir une charge aussi imminente. J'ai recommandé à cette affaire à notre Seigneur, et notre Seigneur m'a secrètement inspiré que si le choix s'arrêtait sur Don Barthélemy des Martyrs, la conscience de votre majesté, comme la mienne, serait en sécurité sur ce point. Qui est Barthélemy des Martyrs? C'est un personnage très important dont un jour je vous parlerai. C'était vraiment une inspiration, hein? Parce que Barthélemy des Martyrs s'est cité comme le modèle des évêques. Outre les ouvrages que j'ai mentionnés tout à l'heure, Louis de Grenade a écrit en latin des sermons pour l'année entière, un recueil qui touche à l'oraison, la méditation, la contemplation, un traité de la pénitence divisé en deux parties, un recueil de philosophie morale qui renferme la morale de Sénèque, de Plutarque, de plusieurs autres philosophes célèbres. Il a publié aussi un traité de rhétorique ecclésiastique ou une méthode pour prêcher. Je pense que ce ne serait pas très bon aujourd'hui. On doit encore au père Louis de Grenade le mémorial de la vie chrétienne. C'était une œuvre extrêmement lue, ça, qui est composée de 7 traités différents. Et puis, il y a aussi le catéchisme ou l'introduction au symbole de la foi, une traduction du livre de Thomas Kempis, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, là, le 19 décembre, L'imitation de Jésus-Christ. Il l'avait intitulé « Mépris du monde ». Il y a 2 opuscules aussi qui ont été publiés sous son nom après sa mort. Mais qui lit Louis de Grenade aujourd'hui? C'est comme ça. Pourtant, durant 3 siècles, on a rendu hommage à son érudition, à sa capacité merveilleuse pour ouvrir les âmes au souci de la libération de leur cœur et pour pénétrer les secrets de la vie mystique. D'ailleurs, il y a une lettre du pape Grégoire XIII qui a été adressée au père Louis 6 ans avant sa mort, le 21 juillet 1582, qui le loue sur ses prédications exceptionnelles. Et puis, il y a le pape Sixte Quint, le fameux Sixte Quint, qui a été son successeur à Grégoire XIII, qui a voulu récompenser Louis de Grenade, il voulait le nommer cardinal. Mais il avait 80 ans, il s'est dit malade, il a refusé tout ça. Au témoignage d'estime des papes sont venues aussi les félicitations unanimes des rois d'Espagne, de Portugal, des cardinaux, des prélats de l'Europe entière et surtout celles de Saint-Charles Borromée. Oui, Saint-Charles Borromée qui était cardinal-archevêque de Milan en Italie, qui l'honorait d'une correspondance personnelle, intime et d'une amitié toute particulière, même s'ils se sont jamais rencontrés. Et le père Louis de Grenade lui a dédié d'ailleurs le 3e tome de ses sermons, à seule fin, dit-il dans la préface, de reconnaître les vertus de ce saint archevêque et cardinal, Saint-Charles Borromée, et de les faire reconnaître par tout le monde, de les publier hautement, comme il écrit. Ces marques d'estime qu'il recevait de tout le monde, cette unanimité à la louange, puis au respect, ne sont jamais, jamais parvenues à inspirer à ce père Louis de Grenade, ce dominicain, même l'ombre d'un sentiment d'orgueil. Il ne s'appropriait rien de toutes les qualités de l'âme et de toutes les facultés de l'intelligence que Dieu avait déposées en lui. Il s'appliquait, au contraire, à s'abaisser autant que possible aux yeux des hommes en reconnaissant que de lui-même, il n'en aurait pas été capable. Je répète, il ne s'appropriait rien de toutes les qualités toutes les facultés de l'intelligence, de l'âme, que Dieu avait déposées en lui. C'est Dieu qui nous donne des talents. On n'en y est pour rien. Il était pressé un jour par un religieux de revêtir une tunique blanche de dominicain, moins usée et moins rapiécée que celle qu'il portait, puis il disait à mon frère, « Je suis mieux habillé quand même que je ne le mérite. N'oubliez pas que tout enfant, je n'avais que des haillons, et j'allais ainsi par la ville déguenillé, pieds nus, en suivant ma pauvre mère qui mendiant, elle demandait l'aumône à la porte du couvent de Grenade. Je tenais à la main un petit pot, dans lequel on nous versait par charité un peu de potage et quelques autres restes, et nous étions trop heureux d'être nourris de la sorte, de son enfance. Si vous venez d'un milieu pauvre, sachez bien que vous pouvez devenir peut-être le plus grand prédicateur de Ville-Marie, de Montréal et des environs. C'est ce qui nous manque, on aurait besoin de grands, grands prédicateurs qui sachent rejoindre le monde et leur parler d'une façon courante, ordinaire, directe, que les enfants soient intéressés, que les jeunes soient passionnés. Où sont ces prédicateurs? Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Bon, j'en étais resté dans la vie de Louis Grenade à l'époque où il venait de refuser l'archevêché de Brague, là, vous vous souvenez. Alors, il a achevé la période d'exercice de charge provinciale, il est envoyé à Lisbonne, en Portugal, où il ne s'occupe plus que de prédication, puis il reprend son travail d'écrivain. Mais sans égard à son âge, déjà fort avancé, hein, il assiste aux offices comme les autres religieux. Et toutes ses journées se passent à l'étude, à la composition de ses livres, à la pratique de l'oraison. Il regarde la solitude comme la plus sûre dépositaire et la meilleure gardienne de ce qu'il appelle l'innocence. Je dirais, oh, le calme intérieur, cette sérénité profonde. Mais il se plaint pas. Il manifeste aucun contentement. Si on vient l'arracher à son travail sérieux pour entendre des confessions à la chapelle ou pour aller visiter des malades, ça ne le dérange jamais. Quand on l'appelle au dehors, il ne consacre à l'affaire qu'il doit traiter cependant que le temps rigoureusement voulu pour la conduite de ce qu'il a à faire. Il rentre aussitôt dans sa cellule. Il aime sa cellule. Elle est meublée d'une table en bois de sapin, de deux chaises, d'un pauvre grabat, de deux grands crucifix attachés au mur, de quelques images de papier qui représentent Notre Seigneur, la Sainte Vierge ou les saints, pour lesquels il a une dévotion spéciale. Et comme il était malade, un jour au couvent de Lisbonne, le cardinal Albert apprend qu'il serait dénué de tout, qu'il n'aurait rien au fond. Alors il lui envoie dans sa cellule un bon matelas, des couvertures chaudes, 6 chemises de toile de Hollande. Mais Louis de Grenade, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien de plus pressé que d'envoyer tout ça à l'infirmerie, les chemises, les couvertures, le matelas. Il ne veut pas être privé de quoi? De ce qu'il appelle les bénédictions que promet Jésus-Christ. À ceux qui conservent, pour son amour, l'esprit de renoncement et de pauvreté. Même s'il accordait beaucoup de temps à ses travaux, il s'était imposé de faire, comme je vous l'ai dit, 3 heures de raison, tantôt à genoux, tantôt prosterné la face contre terre, ou les bras étendus en croix. Mais après l'oraison, il manquait pas de se donner, à l'époque c'était la coutume, la discipline, à l'exemple du fondateur des Dominicains, Saint-Dominique, son maître, son modèle. Il ne pouvait comprendre qu'on puisse réciter d'ailleurs le Fils divin négligemment ou avec indifférence. Un jour, il adresse des paroles de reproche à l'un de ses compagnons qui s'est laissé surprendre à s'endormir au milieu des matines. Il lui dit, « Mon frère, restons éveillés et attentifs quand nous parlons à Dieu, quand nous parlons à Dieu. » C'est ça qu'on fait dans une église, c'est ça qu'on fait quand on prie ensemble le bréviaire. Quand nous parlons à Dieu. Donc Louis de Grenade, quand il était bien portant ou malade, bien il n'a jamais manqué, écoutez bien ça, de célébrer la messe un seul jour pendant toute la durée de sa vie de prêtre. C'était très rare à l'époque, ça. Il disait d'ailleurs, célébrer pieusement la Sainte Messe aujourd'hui est la meilleure préparation à la messe de demain. Est-ce qu'il voulait parler de la messe du lendemain ou la messe éternelle au ciel? Cette acclamation de Dieu, cette action de grâce perpétuelle à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre en action de grâce dès ici-bas pour mieux vivre pendant l'éternité. Louis de Grenade a consacré l'Avent tout entier de l'année 1588. C'est l'année de sa mort, ça. Il est mort, je vous le rappelle, le 31 décembre. Donc l'Avent au mois de décembre. Il consacre tout ce mois-là aux retouches d'un long sermon, un sermon très important. Il supporte en même temps avec patience les dernières crises d'une maladie qui l'afflige depuis 2 ans. Malgré le travail, malgré la souffrance, il veut pratiquer le jeûne de l'Avent, car on jeûnait dans ce temps-là pendant l'Avent comme on jeûnait autrefois pendant le carême. Et aussitôt, la maladie s'est accrue chez lui. Il a été saisi d'une fièvre violente qui l'a réduit bientôt à l'extrémité. Tout le monde a pu comprendre que la mort avançait à grands pas. Son mal ne lui causait aucun trouble d'esprit cependant. Il a gardé son esprit, son intelligence jusqu'à la fin. C'est une grande grâce. Il en supportait les atteintes terribles avec le calme d'un martyr. Dans la soirée donc du 31 décembre 1588, les médecins voyez les forces de ce malade décroître de plus en plus. Ils préviennent les supérieurs qu'il est temps de lui administrer les derniers sacrements. On annonce donc au père Louis de Grenade que sa fin approche. Quelle est sa réaction? Il a un élan d'allégresse. Il joint les mains. Il s'écrie d'une voix que tout l'ardeur de son amour pour Dieu rend forte et vibrante. Il dit... C'est très beau ce qu'il dit. « Enfin, j'irai dans la maison du Seigneur. heureux ceux qui sont admis à y faire séjour et à le bénir pendant les siècles des siècles. Alors il se confesse pour la dernière fois, il reçoit le corps sacré de Jésus-Christ avec des sentiments de respect, des sentiments d'humilité, de ferveur. Sur sa figure, il y avait une expression d'une joie radieuse. Les assistants sont pénétrés d'admiration au milieu de leur douleur. Ils sont agenouillés près du lit. Quelques religieux pleurent doucement. Le maître des novices se lève et se penche au chevet du père Louis de Grenade qui se meurt. Et il lui dit, « Vous sentez-vous la force d'adresser quelques paroles à nos jeunes frères qui aspirent à être un jour de dignes fils de Saint-Dominique, comme vous l'avez été vous-même ? » Alors il répond, « Si je n'ai pas la force, Dieu me la donnera. » Alors on fait approcher les novices, il leur adresse une brève allocution qui est tout embrasée de l'amour de Dieu. Il les exhorte vivement à conserver une grande pureté de conscience, à déployer une activité soutenue dans le service de Dieu, à travailler avec courage pour la gloire, l'agrandissement de l'ordre de Saint-Dominique. C'était un saint, en fait, même s'il n'a jamais été canonisé. Et il parle sans fatigue apparente. Son zèle lui fait oublier toutes ses souffrances. Il termine par ces paroles, « Soyez attentifs à vos devoirs et fidèles à la règle, mes chers enfants. Remplissez avec amour les obligations que nous imposent nos vœux. Songez combien la vie est courte en comparaison de l'éternité bienheureuse, où Dieu vous fera la grâce, je l'espère, de me rejoindre tous. » Alors, priant ensuite qu'on le laisse seul, il rassemble son esprit, son âme, pour s'unir à son Sauveur qu'il vient de recevoir. Il reste presque de 40 minutes en oraison, en extase. Après avoir reçu l'extrême onction, il demande qu'on lui fasse la lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Et il l'écoute d'un bout à l'autre, la Passion. Il tient un cierge allumé dans sa main qui est déjà un peu refroidie par l'approche de la mort. Il proteste que la clarté de ce cierge, écoutez bien ça, qu'il tient dans sa main, ce cierge était l'image de la foi lumineuse qu'il avait eu le bonheur d'avoir dès l'enfance et qu'il avait encore en ce moment où Dieu le rappelait de ce monde. C'est ça qu'on fait quand on allume un cierge dans une église ou un lampion. C'est le signe, c'est l'image de la foi lumineuse qui doit nous habiter, que nous devons avoir encore au moment où nous l'allumons, et nous devons demander à Dieu de nous conserver cette flamme jusqu'à notre mort. Vers 9 heures du soir, l'agonie commence. Les religieux entonnent le psaume de la délivrance, et c'est au milieu de ce psaume que l'âme de ce grand serviteur de Dieu, Louis de Grenade, quitte son corps. Il meurt donc à l'âge de 84 ans, le 31 décembre 1888. Voici ce qu'il écrivait. Lui qui a été condamné par ses œuvres ont été mises à l'index. C'est Melchior Cano qui raconte que ce fut précisément la visée qu'il avait, le but qu'il avait de rendre parfait tous les chrétiens, qui était l'un des points vulnérables de sa doctrine et le motif principal qui ont amené l'inclusion de ses écrits dans le catalogue des livres prohibés en 1559, alors qu'il était vivant. Hein. C'était un moment dramatique pour la littérature spirituelle. Insensé, condamner quelqu'un qui souhaite que tout le monde devienne des saints. D'ailleurs, il disait, on peut lire ça dans un de ses ouvrages sur la prière, « Véritablement, véritablement. » Je ne puis assez m'étonner de l'extrême lenteur que la plupart des hommes, et des femmes j'imagine, apportent à quitter tous ces biens faux et périssables pour embrasser le souverain bien, puisque c'est une chose qui exige si peu de travail. Car je ne trouve que 3 pas à faire pour arriver à Dieu, et qui tous ne me paraissent pas difficiles. Est-ce une entreprise si malaisée de se recueillir un peu durant quelques jours? Et chaque jour de se choisir une heure particulière pour prier, méditer, quelques sujets de piété. Si vous faites comme il faut ce premier pas, assurez-vous qu'en continuant, Dieu vous fasse une seconde faveur et vous ferez le second pas. Que vous sentirez votre cœur s'attendrir insensiblement et que vous goûterez bientôt quelques gouttes de la douceur divine. Et alors, vous n'avez plus rien à souhaiter. Dès lors, vous contractez un heureux mariage avec l'époux céleste. Et vous avez rencontré cette pierre précieuse que le sage marchand avait cherchée avec tant de soin et pour laquelle il était résolu à vendre tout son bien. Vous vous souvenez de cette histoire, hein? Et il ajoute plus loin, croyez fermement que Dieu n'est pas inexorable et qu'il ne retardera jamais ses faveurs à ceux qui l'invoqueront de tout leur cœur. Je vous conjure, ajoute le père Louis de Grenade, je vous conjure donc d'employer tous vos soins pour entrer dans cette disposition. Criez à haute voix. Oui, criez à haute voix. Vous refuseriez d'employer autant de jours qui vous compteront si peu de travail pour penser à votre salut? Et il termine en disant, je sais bien que ce peu n'est pas tout, mais c'est un commencement pour arriver à ce tout, et c'en est une partie considérable. Il invoquait les gens à la conversion. Il y parvenait. D'ailleurs, dans la messe aujourd'hui, vous avez le bel évangile du début de Saint Jean. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde. Lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que je vous souhaite à tous, d'être vraiment des enfants de Dieu, des époux de Jésus-Christ. Vivre avec Dieu, c'est le plus grand bonheur.